et la maison se remplit de fumée. Là, qu'est-ce que Ésaïe voit? Il a appris la mort d'Ozias, il croit que les choses vont s'écrouler, et puis Dieu lui dit, regarde dans le ciel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois le trône de Dieu, je vois les anges qui continuent, rien n'est changé, ils ne sont pas perturbés par ce qui se passe sur terre. Dieu est tout le temps et continuellement adoré dans les lieux célestes. Ce qui est, le ciel n'est nullement affecté par ce qui se passe sur terre. Et dans un sens, on dit, le ciel reste imperturbable par les événements sur terre. Nous, c'est la panique. Nous, grâce à notre technologie, grâce aux médias, eh bien, on nous apporte une quantité de nouvelles que certainement c'est plus que ce qu'un être humain peut supporter, et ce n'était pas prévu à l'origine, parce qu'il faut pouvoir assimiler tout ce qu'on entend. Mais il dit, le ciel, dans le ciel, les choses continuent comme elles ont toujours été, quelle que soit la situation sur terre. La seule question qui sort du ciel, eh bien, c'est la question qui est au verset 8. La voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voilà. Ce à quoi je pense sur terre, c'est d'avoir des serviteurs disponibles pour porter le message aux autres. Il dit, qui enverrai-je? C'est ce à quoi il pense, que la nouvelle soit répandue. La bonne nouvelle soit répandue, celui d'un sauveur. Et lorsque nous lisons dans le chapitre 7 d'Ésaïe, eh bien nous voyons que justement Ozias est mort, Jotham son fils a été roi pendant un temps, puis ensuite c'était Akaz, et au chapitre 7, justement, il voit cette menace qui vient de la Syrie. Il voit cette menace qui vient du royaume d'Israël. Mais qu'est-ce que Ésaïe dit? Au verset 4, il leur dit, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant. » Il dit, « Écoute, reste calme. » Il dit, « Tu sais, un jour, quand votre grand-père est mort, eh bien, Dieu m'a fait voir ce qui se passait au ciel. Ça reste calme là-haut. Donc, reste tranquille. Ne panique pas. Garde ta confiance en Dieu. Il prendra soin des choses. Et dans le sens, le message, c'est même si le roi est mort, Dieu est encore sur le trône. Et dans notre vie, mais on peut voir dans nos journaux, on peut être perturbé par ce qui se passe ici, ce qui se passe là, et ce qui se passe chez nous, et ce qui se passe ailleurs. Et on peut se demander, mais le message de Dieu, c'est Dieu est encore sur le trône. Et tout se passe comme ça s'est passé. Ce n'est pas la terre qui fait la pluie, le beau temps au ciel. Et nous n'avons rien à craindre. Et si je continue, on a déjà vu, on a dit le roi, dans Ésaïe 6, le roi est mort, mais le Seigneur est encore sur son trône. Eh bien, lorsque je viens à Luc chapitre 2, c'est le passage que nous avons lu tout à l'heure, de la naissance de Jésus, et nous pourrions aussi regarder à l'époque et la situation historique, l'empereur romain, César, le César, il doit à tout prix, César Auguste, il doit à tout prix maintenir la paix en Israël. Et si vous étudiez un peu l'histoire d'Israël avec l'historien Joseph, eh bien, les Maccabées, donc les résistants juifs, eh bien, ils avaient fait donner du fil à tordre à ces Romains. Ah, ils les avaient. Et à la fin, quand ils croyaient les avoir cernés, ben finalement, ils n'en trouvaient que quelques cadavres. Pour César, Israël, il faut bien surveiller là, parce que ça, c'est des gens qui sont difficiles. Il faut à tout prix maintenir la paix, parce que chez eux, la révolte, elle est là. Hérode est roi en Judée, et pour lui, la pratique, c'est tolérance zéro. S'il y a quoi que ce soit qui bouge, qui pourrait le menacer, même la pensée de quelqu'un, il réagit. Hein, il était capable, vous connaissez l'histoire, hein, dès qu'il a entendu que les mages étaient venus pour adorer un roi qui serait né, il n'est pas sûr qui est ce roi, il ne sait pas où il est, il n'a rien du tout, mais il a peur et il ordonne que tous les bébés de moins de 2 ans soient mis à mort à Bethléem. Hérode était comme ça, tolérance zéro. Et c'est dans ce cadre-là que vit Israël. Israël, le peuple juif, attend le Messie, mais ils ont une idée de comment il doit être et dans quel cadre il doit venir. Donc, mais malheureusement, c'est qu'ils ne vont pas le reconnaître à cause des idées préconçues qu'ils ont. Aussi, il faut se souvenir que ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu de prophète en Israël. Ça fait 400 ans, depuis Malachi, qu'on n'a pas entendu parler de quelqu'un qui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, il y avait toutes les raisons pour eux de croire que Dieu, s'il n'est pas mort, il les a peut-être oubliés, il les a abandonnés, il en a assez avec eux, c'est terminé. Et pourtant, ils savent que le Messie n'est pas venu et que Dieu devait envoyer le Messie. Et peut-être qu'ils se demandaient « Mais où est Dieu ?» Mais là, tout d'un coup, une nuit, à des bergers assoupis, bon, peut-être qu'il y en avait un qui avait les yeux ouverts encore, mais tout d'un coup, voilà l'annonce de la naissance du Sauveur. Il vous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Physiquement, ce Sauveur, ben, c'est un nouveau-né. Je ne sais pas si vous en avez vu derrière moi, mais ce n'est pas gros. Et vous n'avez pas l'impression que c'est celui-là qui va vous protéger de quelque chose. C'est un nouveau-né qui ne sait rien faire, sinon se nourrir de sa maman. Physiquement, un nouveau-né. Il dit, c'est un sauveur qui vous est né. Du point de vue de la société, il n'appartient pas à une grande famille connue. Parce que dans les sociétés, si on appartient à certaines familles, bon, on est quand même protégé, on a des avantages et tout ça. Lui, il n'appartient à aucune famille connue. Économiquement, il naît dans une famille qui n'a pas les grands moyens. Parce que même si on leur avait dit qu'il n'y a pas de chambre dans l'hôtellerie, vous savez, hein, ça fait pas longtemps... très longtemps que vous viviez dans ce monde, mais vous le savez quand même, que si on a de l'argent, on trouve une chambre quand même. Et surtout à cette époque-là, on se serait débrouillé pour vider une chambre s'ils avaient eu les moyens. Mais ils n'avaient pas les moyens d'obtenir une chambre. Avec ce qu'eux pouvaient payer, il n'y avait pas de chambre. Et Jésus naît dans cette famille-là. Et puis, avant qu'il ait 2 ans, eh bien, il va devoir fuir en Égypte pour être sauvé. Et c'est lui, notre sauveur, c'est lui qui va nous protéger. Mais même dans ces circonstances, notre Seigneur règne. Parce que ce que nous voyons en même temps, c'est que la parole de Dieu s'accomplit. Il nous dit dans Galates chapitre 4, verset 4, Galates 4 et au verset 4, nous dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi. lorsque les temps ont été accomplis. À la date fixée, au moment voulu, au moment choisi par Dieu, eh bien, Dieu a envoyé son Fils. Il faut avoir du pouvoir pour que les choses se passent quand on le veut. Vous savez, des fois, même les bébés, hein, ils croient que c'est l'heure pour manger, et bien alors ils vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour obtenir un repas. Et ils vont faire une scène de telle manière qu'on ne peut pas faire autre chose que de s'occuper d'eux. Hein? Et là, Dieu peut faire que la naissance de Jésus se passe en temps voulu. César ou pas César, Hérode ou pas Hérode, quand c'est le moment, Jésus naît. Et la preuve que c'était bien le moment, c'est que, vous vous souvenez, dans Luc chapitre 1, quand Marie s'est présentée à Élisabeth, Élisabeth s'est réjouie, elle a dit: l'enfant dans mon sein a tressailli lorsque j'ai entendu la voix de ta salutation. Toi, la mère de mon Seigneur. C'est qu'elle l'attendait. Elle ne disait pas ça à n'importe quelle femme enceinte qui se présentait. Mais elle a reconnu en Marie, poussée par l'Esprit Saint, remplie de Saint-Esprit, elle a reconnu que dans Marie, elle était la mère de son Seigneur. Zacharie, lorsque Jean est né, son fils Jean-Baptiste, hein, qui sera appelé Jean-Baptiste par la suite, Jean, à la naissance de Jean, eh bien, justement, il tressaille, il prophétise, et dans Luc chapitre 1, verset 68, il dit: « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Il ne parlait pas de son fils, parce que lui, il était lévite, il était sacrificateur. Et ce n'est pas la tribu de David. Hein, donc il parlait de celui qui était dans la tribu de David, le descendant, le fils de David. Et dit: « Dieu nous a envoyé un puissant sauveur. » Parce qu'il savait que la naissance de son fils était liée à l'arrivée du sauveur. Et puis la surprise de Joseph et Marie lorsqu'ils vont au temple pour remplir leur devoir de juif le huitième jour et de présenter l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Ils rencontrent Siméon qui dit: « Ah, voilà, mes yeux ont vu ton salut. » Parce qu'il savait qu'il ne mourrait point, qu'il n'ait vu le Messie. Il l'attendait. C'est-à-dire que même si c'était l'Empire romain, même si c'était Hérode qui semblait décider de tout, on attendait la venue du Seigneur et il est arrivé au moment voulu. Dieu règne et les choses se passent quand Dieu le veut. Anne, même cette veuve depuis tant d'années, eh bien, elle l'attendait. Vous savez, les temps peuvent paraître sombres, mais Dieu est encore sur son trône. Et il n'est en retard pour rien, même s'il nous semble être en retard, mais il n'est pas en retard. Vous savez, quand on attend quelque chose, les heures sont plus longues. Et surtout si on est en retard. Un feu rouge, si on est en train d'essayer de lire quelque chose rapidement dans le journal, on arrive à peine le temps de trouver la place et c'est déjà vert. Mais si on est pressé, on est là et le feu rouge, il reste, il bouge pas. C'est étonnant. Mais il faut comprendre que nous on n'a pas ce sens du temps. Et Dieu, il reste calme et il est au-dessus du temps et il contrôle le temps. Tandis que nous vivons à la merci du temps. Quand il passe, on croit pouvoir le tuer, hein, mais dans tous les cas, on n'est pas maître du temps, mais Dieu est sur son trône. Et puis, je prends un troisième exemple, c'est justement dans Apocalypse, chapitre 5. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Jean est l'apôtre bien-aimé de Jésus. Hein. On le comprend dans l'Évangile que Jésus aime Jean, et pourtant, le voilà vieillard. Quand il arrive au niveau de l'Apocalypse, quand il rédige l'Apocalypse, c'est un vieillard. Il a peut-être 90 ans. Et il est prisonnier sur l'île de Patmos. Et tout cela parce qu'il appartient à la communauté des chrétiens. Vous savez, les apôtres Pierre, Jean, Paul, ils auraient eu beaucoup d'occasions pour se demander si Dieu contrôlait les choses. Combien de fois ils ont été dans des situations où ils semblaient être à la merci d'un pouvoir violent, ingrat, méchant. Mais vous savez, c'est étonnant, lorsqu'on lit dans Romains chapitre 13, c'est que ces hommes, et là c'est Paul, donc peut-être qui a été une victime du pouvoir, eh bien lui-même, dans Romains chapitre 13, nous dit de voir les pouvoirs comme étant instaurés par Dieu. Dans le sens qu'on pourrait se dire, les hommes élisent, mais finalement ils élisent celui que Dieu a choisi déjà. Dit Romains chapitre 13, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Il dit aussi, au verset 6, il dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc l'apôtre Paul, qui lui était victime, qui le mettait en prison, sinon les pouvoirs religieux, les pouvoirs politiques. Et pourtant c'est lui qui dit, non, ils sont là, serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui les met, bon, c'est Dieu qui les enlève aussi. Et eux, s'ils se font des idées et croire qu'ils deviennent puissants, Dieu sait les enlever. Et en général, on tombe aussi facilement qu'on monte. Hein. Surtout de nos jours. L'apôtre Paul, au lieu de paniquer devant la violence et devant ce qui se passait, il disait, Dieu, écoute, moi je vois ça comme une preuve que toi tu contrôles. Vous savez, la question, on dit, comment est-ce qu'on a pu choisir un tel homme politique ? Et peut-être qu'on devrait se poser la question, mais peut-être que c'est celui qu'on devrait avoir. Hein, vu le comportement qu'on a et les manières dont on se comporte, peut-être certains hommes politiques sont des jugements sur nous. Et nous devons faire très attention dans notre comportement, mais en tant que chrétien, il nous dit... Eh bien, vous devez être soumis aux autorités et le reconnaître. Au lieu de paniquer et dire, mais oh Dieu, où es-tu ? Il dit, non, non, quand tu vois ces autorités, c'est moi qui les mets en place. Tu n'as rien à craindre. Je sais, je les utilise. Comme il a dit de Nebuchadnezzar, il a dit, c'est mon serviteur. C'était son serviteur quand il a détruit le temple de Jérusalem, mais c'était son serviteur quand Dieu lui a fait justice et il a, tout d'un coup il est mort. Détruit par un pouvoir qui utilisait les mêmes méthodes que lui. Écoutons ce que disent ces hommes. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, dans 2 Timothée 4, 18, il dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. » Ça, c'est Paul. Et il écrit à partir d'une prison. Il dit aussi, dans sa première lettre à Timothée, il dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, du seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Pour lui, Dieu est là et ça ne bouge pas. C'est plus sûr qu'une montagne. Pierre qui a connu beaucoup de persécutions et de souffrances, en tel point que c'est un spécialiste là-dedans et il parle, il encourage les chrétiens qui sont persécutés. Il dit dans sa première épître, au chapitre 4, verset 11, il dit « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu le communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Amen. Il dit, voilà, faisons tout, Dieu est en place, et donc servons comme nous, des personnes qui croient vraiment que Dieu est à sa place. Et 1 Pierre, chapitre 5, verset 11, il dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors l'apôtre Jean, qui est sur l'île de Patmos, et alors que tout semble contraire, il est là prisonnier, exilé, on n'a plus accès à lui. Et bien alors qu'il est là, et bien il a une vision de ce qui se passe au ciel. Et dans ce chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, vous y êtes là. Mais je lis, il dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis du milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux et ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades, de myriades, de milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, les entendaient disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà, quand, du point de vue de Jean, il est exilé sur une île, prisonnier, on le laisse là, on l'abandonne. Et on a l'impression que c'est le monde qui réussit. Eh bien, Dieu dit, écoute, je te montre ce qui se passe au ciel. Dieu est sur le trône, et il règne, et il est adoré, et il a un plan, et il a l'intention de réaliser ce plan. De quoi rassurer Jean. Mais en plus, lorsque nous voyons que cette vision, non seulement elle est présente, mais elle concerne les choses à venir, la fin du monde, la fin, les choses de la fin, et on voit que Dieu est encore là, il règne, et on se réjouit de ce que l'agneau ait pu accomplir sa mission, et que ces gens qui ont été rachetés de toute tribu sont là dans la gloire. Finalement, peu importe ce qui se passe sur cette terre, peu importe comment les choses ont l'air d'aller, il dit, écoutez, vous voyez avec vos yeux, vous voyez ce qui se passe autour de vous, mais si vous pouviez voir ce qui se passe dans le ciel, eh bien c'est tout autre chose. Dieu règne et son plan se réalise. Il a dit à Ésaïe, il a dit, le roi est mort, mais moi je suis sur mon trône. Jésus-Christ arrive, on ne veut pas de lui, même on le crucifie, mais Dieu est sur son trône. Jean, l'apôtre, c'est la persécution qui va durer 2 siècles. Et on a l'impression que c'est l'Empire romain qui décide de tout. Et Jean regarde dans le ciel et puis voit Dieu sur son trône. Et nous devons aussi par la foi, encore aujourd'hui, même en voyant les émissions, et puis on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Et puis on essaye de se projeter dans 20 ans, dans 30 ans, nos enfants, et qu'est-ce que notre monde va ressembler à quoi? Et il y a de quoi paniquer, c'est vrai, avec les données que nous avons, il y a de quoi paniquer. On a presque envie de dire, mais je ne veux plus avoir d'enfants parce que je ne veux pas les mettre dans ce monde-là. Et avec vu les informations que nous avons, eh bien c'est une gentille réaction. Mais en tant que chrétiens, nous élevons nos yeux et puis nous disons, mais Dieu est sur le trône. Et nous n'avons rien à craindre. Pendant les premiers siècles, alors que c'était la persécution, les chrétiens avaient des enfants. Pas pour les préserver ou parce que ça ne les gênait pas qu'ils souffrent, mais parce qu'ils savaient que Dieu était sur le trône. Et encore aujourd'hui, nous pouvons continuer à faire nos projets et continuer à vivre parce que nous savons que Dieu est sur le trône. Et je n'ai pas à paniquer, je n'ai pas à prendre des choses pour m'endormir le soir parce que je sais que Dieu est sur le trône. Et il le sera parce que son règne est dur de siècle en siècle et jusque dans l'éternité. Alors nous n'avons pas à craindre. Notre Dieu est sur le trône. Il l'a toujours été. Et ce qui se passe sur terre ne menace nullement ce que se passe dans la gloire. Et ce que Dieu a prévu, eh bien, se réalisera. Et c'est pas seulement de j'espère, mais ce sont des réalités. Parce qu'on a affaire à Dieu. Et il est vrai. Prions. Père céleste,